Bonsoir à tous. Certains d'entre vous s'apprêtent peut-être à fêter Noël en famille, peut-être avec quelques amis aussi. L'occasion d'immortaliser le moment en faisant, pourquoi pas, un petit selfie. Alors faire un selfie, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la méthode, c'est se prendre soi-même en photo avec un smartphone, un téléphone intelligent comme on dit, pour ensuite le publier sur les réseaux sociaux. Barack Obama, le pape, les adolescents, les touristes, les amoureux, vous, moi, la pratique a littéralement explosé. Chaque jour, ce sont 5 milliers de clichés qui sont partagés sur le web. Parmi eux, beaucoup de selfies, même si, on le verra, c'est un peu difficile de mesurer le phénomène. De quoi les selfies sont-ils le nom ? Le selfie, ça suffit ? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Pauline Escande-Gauquier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sémiologue, maître de conférences au CELSA, et vous avez publié le premier ouvrage français sur le selfie. Ça s'appelle « Tous selfies » et c'est paru au mois de septembre aux éditions François Bourin. Deuxième invité, Philippe Guton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste, professeur émérite de l'université Paris 7 Sorbonne, et vous êtes également le fondateur de la revue Adolescence, qui, me disiez-vous, fête ses 32 ans cette année. Alors merci beaucoup à vous deux d'être là. J'ajoute qu'on peut évidemment admirer le petit selfie, les petits selfies que nous avons fait tous les trois sur Twitter, sur le compte @débatRFI, et on attend évidemment vos selfies sur Twitter également avec le hashtag #débatRFI.
Je vais prendre une photo de nous et on verra si on peut battre ce record des retweets. Bon, Julia, venez ici.
Channing, if you can get in also.
Channing,
Bradley,
aussi.
Bradley, no, I want you in it. Jennifer, come in also.
Bradley, pardon.
Get in here. No, I'm
venez
doing
tous,
it.
Venez tous.
Angie,
Brad, Angie, Lupita.
Voilà, alors c'est une séquence que vous avez sans doute tous vue. C'était lors des Oscars 2014. La maîtresse de cérémonie se met à faire un selfie au milieu de l'assemblée avec toutes les grandes stars hollywoodiennes qui étaient présentes, dont Meryl Streep. Et en quelques heures, ce selfie est partagé 2 milliards de fois. Alors on a su ensuite que c'était une opération marketing, mais c'est vrai que cette photo, ce selfie a vraiment fait le tour du monde. Pauline Escande-Gauquier, on critique souvent le selfie en disant qu'il est le symbole du nombrilisme de nos sociétés actuelles. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, effectivement, c'est un peu un discours d'escorte qui accompagne l'explosion du phénomène et, je dirais, de décryptage pour essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup il a pris autant de place dans nos vies, aussi bien privées que publiques. Alors, l'objectif d'un selfie, c'est avant tout d'être partagé. Donc, même s'il y a effectivement une dimension un peu narcissique, pour certains, je dirais un ego trip, il ne faut pas oublier que l'objectif, et c'est ce qui fait sa différence avec un autoportrait, c'est avant tout de partager un événement, une situation vécue avec
donc
sa communauté ou avec les autres.
Donc il y a une dimension collective, vous trouvez ?
Voilà, c'est-à-dire c'est moi, mais dans le collectif.
Donc c'est pas le nombrilisme, c'est plutôt moi au milieu d'une société, voire de différentes sociétés, puisque ça passe les frontières, évidemment.
De différentes sociétés.
Un nombrilisme élargi.
Voilà, un nombrilisme élargi. Et ça, je pense qu'on pourra avoir cette conversation. Un nombrilisme en miroir de l'autre aussi, effectivement.
Voilà. Alors justement, Philippe Guton, quelle est votre analyse de ce phénomène, le selfie, qui a explosé, on dit, à peu près en 2012. Donc ça fait quand même 3 ans, bientôt 4. Comment vous le voyez-vous ?
Moi, j'ai envie de faire un tout petit topo sur le narcissisme, qui, si vous avez utilisé le mot, alors vous en êtes responsable. En psychanalyse, on oppose le narcissisme positif et négatif. Donc le narcissisme positif qui consisterait à justement exhiber avec satisfaction, avec plaisir, son portrait. Faire une sorte d'autoportrait brillantissime. Et en même temps, on définit très bien un narcissisme négatif, à savoir que si on a envie de faire son portrait de la sorte, c'est qu'il y a une blessure cachée considérable. Donc ce narcissisme exhibé masque au fond les blessures narcissiques profondes.
Donc pour vous, le selfie relève plus du nombrilisme négatif que positif ?
Non, je dirais pas...
Des deux.
Oui. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut que je me présente fort pour cacher ma faiblesse ou pour traiter la faiblesse que je ressens en moi.
Pauline Escandes-Gauquier, vous êtes d'accord sur cette analyse ?
Alors, je suis d'accord parce que il faut bien comprendre que le selfie, c'est un médium. C'est devenu vraiment une médium et on lui donne le contenu qu'on veut lui donner. Donc, si vous êtes plutôt en phase avec vous-même et vous n'êtes pas trop dans une défaillance narcissique, l'objectif, c'est avant tout de partager, de communiquer à un moment donné attester de sa vie intense. Voilà, par exemple, je vais voir un match de football, je vis voilà, le soir de Noël, je suis en famille.
Il y a pas un côté journal de sa propre vie.
Voilà, il y a un côté journal de bord, même album de famille, hein, quand c'est dans la sphère privée. Par contre, effectivement, quand on voit certains individus qui sont dans une compulsion selfique, voire une selfie mania, là, on peut se poser la question. D'ailleurs, il y a une très jeune femme qui était très suivie sur les réseaux sociaux récemment.
Oui, qui a fait une sorte de coming out.
Qui a fait un coming out en disant, voilà, je ne peux plus, je n'en peux plus. J'ai pris la mesure de cette compulsion selfique. Et en fait, tout ça, c'est du simulacre, c'est de la farce, ça n'est pas moi. Maintenant, je vais arrêter et je vais enfin vivre ma vie et arrêter de vivre à travers voilà, ce monde digital.
La vraie vie et plus ce que je voulais en montrer. Alors justement, sur ce côté peut-être un petit peu pathologique, Philippe Guton, l'Association américaine de psychiatrie, a reconnu l'excès de selfie, alors je cite, comme un trouble mental, disant qu'il n'existait pas de traitement, mais recommandant la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, est-ce que pour vous, la selfie-mania peut ressembler à une maladie ?
Non. D'abord, je n'aime pas trop la classification américaine des maladies. Nous n'aimons pas en France ce type de classification. On aime une psychologie qui soit souple, qui n'oppose pas la maladie et le caractère normal ou ordinaire. Non. Je pense qu'il y a, de la même façon qu'on parle beaucoup des addictions à l'écran chez les adolescents, non, ne parlons pas trop de maladies et parlons plutôt de la dynamique de ces phénomènes. Voilà.
Et sur le traitement, la thérapie cognitivo-comportementale, ça veut dire quoi ? Comment est-ce qu'on peut traiter un selfie maniaque ?
Je suis psychanalyste, je vais vous faire une réponse négative, mais je ne sais pas si c'est l'enjeu du débat aujourd'hui. Bien entendu, je mets une place, disons, un peu raisonnable à la thérapie cognitivo-comportementale, qui prend en France une extension considérable, alors qui est même en rivalité dans les universités avec l'enseignement de la psychanalyse, ce qui est tout à fait regrettable.
Pauline Escandes-Gauquier, sur ces cas de selfie maniaque, est-ce qu'on arrive à les comptabiliser ? Est-ce que c'est vraiment anecdotique ? Est-ce que c'est aussi une certaine réalité ?
Je pense que par rapport au nombre d'individus qui se prennent en selfie par jour, c'est quand même une minorité. Rassurons-nous, le selfie reste quelque chose de bon enfant, de festif et... Voilà, je parle dans la sphère amateur et privée. Alors, évidemment, dans le selfie, ce qui est important, c'est que on se donne à voir. Hein, donc, self, c'est soi. Donc, on se construit un self, souvent réenchanté par rapport à la réalité de son existence. Et il y a un aspect, malgré tout, authentique. Voilà, c'est-à-dire, donc, ça joue entre cet aspect authentique, parce que je me prends en selfie in situ, en situation. Et en même temps, comme j'ai la possibilité aujourd'hui de retravailler mes photos grâce aux multiples applications qui existent, j'améliore, j'enchante un peu.
Une sorte d'authenticité, c'est un peu
exactement.
Ambivalent. Quoi.
Et juste le fait de capter l'événement lui-même, c'est lui donner une importance aussi.
Et juste, je reviens sur les chiffres, est-ce qu'on a une idée du nombre de selfies qui sont partagées par jour, par an ? Parce que ça doit être très compliqué de mesurer ça. On ne sait pas.
Alors, proportionnellement, depuis plusieurs années ?
Est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Est-ce que effectivement c'est en train de baisser ? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'explosion il y a quelques années. On en est où aujourd'hui ?
Alors en
2015,
fait, on a des chiffres pas sur le selfie lui-même, mais plus global. On a un chiffre sur le fait que de plus en plus, ce qui est partagé sur les réseaux sociaux, c'est de l'image. Donc le selfie étant un genre parmi d'autres extrêmement partagé. Et il y a aussi les gifs, par exemple, qui sont très partagés.
Des images animées,
des
oui.
petites images animées comme ça. Des photos, je dirais, plus standard, comme la photo touristique, voilà, pour donner un autre exemple. Et puis, toutes ces mini-films aussi qu'on peut partager ou mettre sur YouTube.
Voilà, donc beaucoup de choses sur
beaucoup
Internet,
d'images.
De plus en plus de photos, de plus en plus de selfies, peut-être, en fait, ça on ne sait pas très bien.
Avant, les gens prenaient des photos. Maintenant, ils prennent des... Le principe de base d'un selfie, c'est quand même de prendre la photo soi-même. Mais ça a carrément remplacé le mot photo maintenant.
Hey, je suis trop fan, hey, on peut prendre un selfie?
Bien sûr, ouais, pas de soucis. Avant, on faisait pas de selfie. Allez, c'est parti. Voilà, je vous envoie ça dans 2 semaines.
Yes.
Et puis, il y avait toujours quelqu'un qui devait se sacrifier. Qui prend la photo?
Bah, c'est ton appareil, frère.
Vous vous rappelez des photos de paysages de nos papas? Alors ça, c'est la photo de l'étang. On allait super après-midi. Ok. Ça existe plus! Même les papas se sont mis au selfie!
Voilà, même les papas se sont mis au selfie. C'est le youtubeur Hugo Délire que certains adolescents que vous rencontrez, Philippe Buton, doivent regarder sur Internet. Est-ce que le selfie, enfin, c'est pas est-ce que, même les papas en font, le selfie n'est plus que générationnel? Alors qu'est-ce que ça dit de l'adulte, de la personne en général, puisqu'il ne s'agit plus seulement d'adolescents, Philippe Buton?
Et alors, j'ai envie de faire une petite distinction. Alors, c'est un peu professoral, si vous voulez, mais une petite distinction. Le narcissisme est un plaisir, est une jouissance narcissique. Et en cela, bah, c'était le plaisir, un plaisir risqué, hein, puisque le mythe de Narcisse est mort de s'être trop regardé. Hein, il en est mort. Donc c'est un plaisir dangereux, c'est un plaisir à risque. De telle sorte que on peut dire que les adolescents très narcissiques sont dans une position de risque. Alors laquelle? Non, c'est pas lieu de le travailler ici. Donc, retenons quand même l'idée d'abord que le narcissisme est une jouissance.
Envie de jouir tout au long de la vie quand on est adolescent, mais
du
aussi
plaisir
quand,
de
on,
se
quand
voir,
on vieillit.
De se voir en situation, de se voir avec l'autre, avec un autre, des autres, etc. Ou de se voir seul. Voilà. Mais il y a un autre aspect du narcissisme qui est, à mon avis, beaucoup plus en jeu dans le selfie. C'est le narcissisme est un pouvoir. C'est une emprise. Je me regarde parce que je cherche à avoir une emprise sur moi. Je me sens plus fort lorsque je me suis bien regardé. Avant de sortir le soir, je passe 10 minutes devant le miroir. Et une emprise sur les autres. Et c'est ça, au fait, dont on parle depuis le début de l'émission. C'est une emprise sur les autres. Sur quels autres? Sur le père, vous dites, mais également dans des champs aussi variés que le politique, le marketing, etc. Bref, l'introduction de son portrait sur l'autre et avec l'autre.
Alors là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Pauline Escondre-Gauquet, je crois que pour vous aussi, le selfie, c'est aussi le signe d'une capacité à maîtriser son image. On est là aussi un petit peu dans cette thématique.
Alors je suis tout à fait en accord avec ce que vous dites sur la prise de pouvoir, parce que évidemment le selfie c'est une scène, voilà, c'est une scène, et s'il n'y a pas de regardant, et bien si cette scène est vide, ça ne sert à rien.
Alors troisième cette emprise, deuxième regard, on voilà. Se regarde et on crée des regards autour de soi.
Et on crée des regards, donc je me regarde, je te regarde, mais aussi je te regarde me regarder. Et comment je te regarde me regarder? Je regarde si tu vas liker, si tu vas commenter ma photo. Et ça, c'est extrêmement important dans le processus du selfie. Et sur la prise de pouvoir, on voit combien c'est important parce que le selfie est devenu aujourd'hui un outil de communication extrêmement efficace. On voit ces hommes politiques, ces stars qui recherchent toujours le coup selfie médiatique parce qu'elles ont pris le pouvoir sur leur image. Et sur le fait qu'elles ont, sur ce qu'elles ont envie de montrer d'elles-mêmes.
Alors, est-ce que ça voudrait dire que le selfie permet aussi d'assurer une exposition qui est celle des puissants au quidam? Est-ce qu'on pourrait y voir une sorte de dimension politique? Reprendre un peu la maîtrise aussi.
Peut-être qu'il y a une dimension politique également, parce que pourquoi le selfie? Et autant décrié, on dit que c'est ridicule, que c'est grotesque, que c'est dangereux. Parce que finalement, ça permet tout à chacun de prendre la parole à un moment donné et de le publier sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
De démocratisation.
Une sorte de démocratisation de la parole. Et c'est un espéranto, l'image synthétise un
Elle
message.
Elle est compréhensible,
et compréhensible par tous. Donc, on a vu, on en parlait tout à l'heure, cette jeune fille qui s'est prise en selfie...
Avec, donc dans le nord de la France, il y a quelques jours, une jeune fille.
Pour sensibiliser sur la cause en hiver des SDF dehors et qui ont froid, faim, donc on voit aussi que cette dimension est très importante. Oui,
Philippe Guton, le selfie utile comme ça, le selfie politique, c'est intéressant.
Le pouvoir. Moi, je pense qu'il y a dans le selfie, par exemple, d'un homme politique, la recherche d'un pouvoir qui n'est plus par ça. par la parole, qui n'est plus par ses raisonnements, qui n'est plus par rapport à ses projets politiques, n'est-ce pas, qu'il peut exprimer dans ses discours, mais par son portrait. Alors il y a vraiment un transfert de pouvoir extraordinaire. Je peux être un gouvernant parce que j'ai un beau portrait.
Mais ça, est-ce que c'est pas le diktat de l'image qu'on retrouve
exactement,
dans n'importe quel meeting? C'est
en fait sur le poids de l'image,
une nouvelle illustration du poids de l'image pour vous.
Absolument.
Donc vous n'y voyez pas vraiment une nouveauté?
Je n'y vois pas une nouveauté et j'y vois une focalisation quand même dans certains secteurs qui semblent très importants. Et puis quand même étant sensible au fait que je ne peux réussir que essentiellement à cause de mon portrait et pas à cause de ce que je suis. C'est quand même gravissime, d'une certaine façon, pour un homme de haut niveau que de penser de la sorte.
Alors, cette puissance de l'image, et vous parliez tout à l'heure, Pauline Escande-Gauquier, de la notion de nouveauté, est-ce que finalement, faire une photo de soi-même, une image de soi-même, c'est vraiment nouveau? Non, il y a évidemment tous les autoportraits qu'on connaît dans la peinture.
Voilà, notamment Rembrandt est très connu pour avoir fait tout au long de sa vie des autoportraits.
Autoportrait, oui.
Les premiers photographes également... ont tout développé un art du portrait, mais aussi de l'autoportrait. On sait très bien que les premières photos, c'était beaucoup des portraits où on venait poser en famille. Alors, sur le portrait, le pouvoir, ça a toujours été, parce que même dans l'art pictural, tous les puissants se sont fait faire leur portrait pour instaurer, asseoir leur pouvoir et créer une forme d'aura autour de leur figure. Donc, de toute façon, le portrait, c'est une façon de marquer... le pouvoir, ça a été longtemps un signe de pouvoir.
Donc on n'est pas dans un narcissisme aigu particulièrement à notre
époque.
Non, sauf
finalement. Que là maintenant, c'est cette dimension oratique liée au portrait a été totalement cassée par la démocratisation de la photo et du fait que tout le monde puisse faire son portrait. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le politique fait des portraits comme ça? Enfin, fait ce que j'appelle des selfie-graphes dès qu'il est notamment...
Ce sont des rivalités narcissiques, on peut dire ça?
C'est des rivalités narcissiques, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le pouvoir se mesure aussi à son degré de visibilité sur l'espace social. C'est-à-dire, je dois être visible, je dois être présent, et le meilleur moyen...
C'est ce que fait très bien Barack Obama, qui est très présent sur Internet, sur Instagram,
Obama.
Qui se prend beaucoup en photo,
je
y compris avec sa femme.
Je suis visible, et on sait très bien que quand il y a une photo comme ça, qui est diffusée sur les réseaux sociaux, et qui n'est pas forcément le geste du politique lui-même, mais d'un citoyen, voilà... qui le rencontre, ça va buzzer, ça va être partagé, et donc ça va créer de la visibilité, une autre forme de visibilité que celle qui existe traditionnellement sur les autres médias.
Philippe Guton, peut-être juste pour terminer...
Est-ce qu'Obama le ferait s'il n'était pas beau?
On essaiera de lui demander la prochaine fois.
Hollande le fait. Je pense qu'il est un peu moins bon.
Je vous laisse votre jugement de valeur. Juste peut-être pour terminer, puisqu'il ne nous reste plus qu'une minute. Philippe Guton, vous nous avez dit que le selfie, c'était l'expression d'un narcissisme commun finalement. Alors, est-ce que ça va être une mode? Ça va disparaître? Ou est-ce que vous pensez que ça va être vraiment un phénomène au long cours?
Alors, depuis des années, on décrit l'adolescence, le développement de l'adolescence sous le regard des autres, sous le regard du social, du culturel, sous le regard de tel ou tel autre. Là, il y a une concrétisation de ce regard dont nous parlons constamment en psychologie de l'adolescent, de façon intéressante sur ce troisième regard ou bien ce téléphone intelligent. Enfin.
Donc, pour vous, ça va continuer?
Ça va continuer, éventuellement, évoluer autrement.
Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos deux invités, Pauline Escande-Gauquier, sémiologue, maître de conférence au CELSA. Je rappelle que vous avez publié Tous Selfies aux éditions François Bourin. Philippe Guton, psychiatre, psychanalyste, fondateur de la revue Adolescence et auteur d'un livre qui est sorti il y a quelques semaines, Expérience adolescente et djihadisme aux éditions L'Esprit du Temps. Merci à Florence Ponce, à Benoît Raymond pour la préparation, la réalisation de cette émission. Très bonne soirée, journée ou matinée, où que vous soyez. Un très joyeux Noël si vous le fêtez, du bon temps si vous ne le fêtez pas. Et n'oubliez pas, évidemment, de nous envoyer vos selfies. À bientôt.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Dans les pays.